Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Emmanuel Tchibaou, député de la seconde circonscription et président de l'Union calédonienne. Emmanuel Tchibaou, bonjour.
Bonjour à RB, bonjour aux auditeurs.
Merci d'accepter notre invitation alors que vous avez été réélu président ce week-end lors du 56e congrès de l'UC et alors que l'actualité institutionnelle est marquée bien sûr par la signature d'un accord complémentaire Élysée-Oudinot que rejette le FLNKS. Beaucoup de questions à vous poser. Donc, et d'abord, vous avez été réélu à la présidence de l'UC, mais quels sont vos objectifs pour ce nouveau mandat? C'est la deuxième fois que vous êtes élu à la tête de ce parti.
Alors, déjà, le premier objectif, c'est de faire valoir les positions du parti dans le cadre de notre engagement pour notre pays sur l'émancipation, l'indépendance. Il y a un engagement aussi qui a déjà été celui du mandat de l'an dernier à Mia, à Canala, de poursuivre les discussions institutionnelles. On est toujours ouvert au dialogue et on est déterminé à partager les positions que l'on a dans le cadre du débat démocratique. On a aussi des engagements au niveau local. Il y a les échéances qui arrivent, municipales, les provinciales certainement aussi. Et là, pour l'actualité qui concerne le mouvement, on a eu durant la semaine qui précédait, une rencontre des jeunes, où il y a une centaine de jeunes qui se sont réunis de l'ensemble des régions de la Grande Terre et des îles. Et puis après, ça nous a permis aussi de mobiliser et de faire un état de, finalement, non seulement de la réflexion, mais de la feuille de route qui nous avait été fixée à Mia. Sur la partie institutionnelle,
faire le bilan de cette année, quoi, le bilan de cette première année de mandat.
Voilà, structurer le mouvement, rappeler que le mouvement FLNKS, c'est notre interlocuteur pour les discussions institutionnelles et que nous, au sein de nos représentations dans les collectivités, communes et provinces, on porte le mandat sur le projet de société que l'on a défendu durant les deux consultations référendaires et puis qu'on a bonifié pour aller aux discussions.
C'est ce qu'on retrouve, on imagine, dans les motions du 50e congrès. Elles n'ont pas été rendues publiques encore.
Il y a la conférence de presse tout à l'heure, vous êtes invité, et puis c'est à 13h à l'avenir.
C'est à ce moment-là qu'on saura. Alors, vous avez été élu au second tour de scrutin, vous étiez seul en lice, il y avait plusieurs candidats au premier tour, élu avec 139 voix sur 200. Alors on sait que le mode de fonctionnement de l'Union calédonienne est très particulier, avec les comités locaux, etc. Est-ce qu'il y a une division au sein de l'UC? Parce que vous ne faites pas l'unanimité, mais vous ne vouliez pas non plus être élu avec 100% des voix, j'imagine. Mais il y a des divisions ou non au sein de l'Union calédonienne?
Je pense que c'est le bénéfice que l'on a, c'est d'avoir 200 délégués qui représentent les 33 communes. Donc notre système de vote, c'est un peu comme une élection au Sénat, avec des délégués qui représentent les communes. Et on a la même chose pour. C'est comme ça qu'on finalement les échanges se font valoir sur les prises de position. Et le premier rendu, c'est d'abord de rendre compte de la mission qui était la nôtre, enfin en tout cas pour le bureau après Mia. Donc le scrutin, il a fait valoir une majorité que je pourrais qualifier de plus que qualifiée, pour qui se sont portés sur ma candidature. Et il y a d'autres candidatures qui se sont fait valoir à ce moment-là. Et c'est, je pense, une bonne chose pour nous, parce que ça veut dire qu'on est encore dans la démocratie et que chacun peut faire valoir ses positions.
Il y a des opposants quand même à votre attitude, à ce que vous avez fait cette année. On sait que vous avez signé Bougival, puis qu'ensuite la signature a été retirée. Est-ce qu'au sein même de l'Union calédonienne, il y a des militants, des délégués qui ne sont pas d'accord avec la ligne que vous avez poursuivie ? Et qu'ils font savoir.
Oui, c'est. Je pense que là aussi, c'est une bonne chose pour nous. C'est ça notre vraie chance, c'est de faire valoir des oppositions et que le cadre, c'est celui qui est celui des motions du parti. Enfin, moi, j'ai signé à Bougival parce que on nous a dit que c'était un projet d'accord à signer en l'état. J'en ai fait état plusieurs fois dans les prises de parole publiques. Et on n'a jamais dévié de cette trajectoire-là. On nous avait dit qu'il y a une ratification officielle qui devait se faire à Nouméa, on l'attend toujours. On nous avait dit que la consultation se ferait après que le comité de rédaction ait validé, etc. Bon, on voit que finalement, le calendrier qu'on a signé à Bougival, il n'a jamais été tenu. La parole l'État a été, comment on va dire... Enfin, nous, on est relativement serein. Et le ministre d'État, Valls, l'a aussi témoigné en réunion de la délégation des Outre-mer, que c'était bien un projet d'accord. Donc, je ne vois pas à quel niveau je pourrais broder une autre histoire, sinon celle qui nous a été partagée au moment de la signature.
On y reviendra, et notamment avec l'accord complémentaire qui vient d'être signé. Alors le bureau, pour rester sur l'Union calédonienne et son congrès, le bureau aussi a été reconduit quasiment à l'identique. Le président du FNKS, Christian Théin, reste commissaire politique. C'est une question qu'on se pose beaucoup depuis mai 2024 notamment. Mm-hmm. Quel est le poids de la CCAT au sein de l'Union calédonienne? Est-ce que vous êtes pris en otage par la CCAT? Est-ce qu'ils existent à part? Est-ce que c'est eux qui influent et qui font la ligne aujourd'hui de l'UC et du FNKS?
Ben, je pense que ça serait un peu prétentieux de dire que les groupes de pression à l'intérieur, ça serait l'apanage que d'un comité local ou d'une région. Je pense qu'aujourd'hui, la CCAT a un rôle important dans la mobilisation, de même que la JKM, qui est l'association, le mouvement des jeunes. Et puis qui partage aussi, c'est un outil de revendication qui a été reconnu aussi par le mouvement de libération FLNKS. Je pense que le vrai appui aujourd'hui, c'est la mobilisation qui est une mobilisation politique d'abord. Donc on entend beaucoup, ça et là, des paroles sur une radicalité qui s'exprimerait de la part du président de l'Union calédonienne et qui aurait changé par rapport aux législatives, etc. Moi, je n'ai jamais changé de discours.
Dans votre discours d'ouverture de ce congrès, vous avez martelé que l'heure est à la lutte, l'heure est au combat.
C'est ça.
Dans le climat actuel de la Nouvelle-Calédonie, la crise sociale, économique consécutive ou aggravée, en tout cas très largement par les émeutes de mai 2024, est-ce que vous croyez que les Calédoniens peuvent comprendre ce ton offensif politique radical, entre guillemets, pour reprendre l'expression? Est-ce que vous ne croyez pas que les Calédoniens ont besoin d'apaisement, de vision d'avenir, plutôt que de discours sur la lutte et le combat?
Je vous invite dans les quartiers, si vous allez à Rivière-Salée, si vous venez dans nos tribus, si vous venez dans les entreprises, vous verrez combien c'est difficile pour nos populations. Et je ne pense pas que c'est mentir que de dire que chacun ici est dans la difficulté. Et que je suis solidaire de cette...
C'est ce que je viens de dire, c'est parce qu'ils sont dans la difficulté qu'ils n'ont peut-être pas envie qu'on leur parle aujourd'hui de combat politique, de lutte politique. Ils ont vu ce que ça a donné en mai 2024. Ils ont peut-être aujourd'hui besoin d'avoir des assurances sur leur avenir économique, sur leur travail, sur les garanties sociales qu'ils peuvent avoir.
Si je comprends bien votre raisonnement, c'est de dire que la lutte, c'est ça qui a amené les émeutes. Je rappelle que nous, on n'a jamais mobilisé pour brûler, pour casser. Ça, c'est une interprétation que les uns et les autres peuvent faire. Moi, je n'ai pas d'autre option qui est celle que de dire qu'il faut s'engager.
Vous exonérez la CCAT d'un rôle dans les émeutes de mai 2024?
Je demande à la justice de faire son travail. Je l'ai fait valoir, notamment sur votre antenne, à plusieurs reprises. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de la présomption d'innocence. Donc c'est valable pour le président de la République, c'est valable aussi pour les militants de la CCAT.
Ma question, elle n'était pas vraiment celle-là, en fait. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, les Calédoniens n'ont pas besoin qu'on leur parle de préparer l'avenir, de leur trouver des solutions dans leur vie de tous les jours, justement, sur le plan social, sur le plan économique, plutôt de leur parler à nouveau de combat et de lutte?
Je pense que c'est une vraie question, et ce que je vous apporte comme réponse, c'est celle-là. C'est que l'engagement qui est le nôtre, c'est celui de trouver des solutions. C'est pas d'être un outil qui ne produit que du slogan. La politique, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, ma vision, c'est pas celle-là. C'est de transformer le projet de société. Aujourd'hui, pourquoi j'ai fait cette déclaration en ouverture de congrès à Marais, c'est que la proposition qui est posée sur la table ne correspond pas à nos aspirations. Et ce qu'on a fait valoir après Bougival, on a dit on était contre, parce qu'on nous a dit faites valoir vos éléments sur lesquels vous positionnez sur l'accord de Bougival, le projet d'accord. On a rejeté le projet, on nous convie à une séquence qui ne doit pas parler que de ça. Je redis encore, si l'État ne nous entend pas, eh ben, on continue à faire valoir les positions qui sont les nôtres, qui portent sur les réformes, qui porte sur la reconnaissance du droit à l'autodétermination, qui porte sur l'exercice des régaliens. Enfin, voilà, c'est...
Pour revenir à votre discours, il y a un passage où vous faites presque votre autocritique, en disant il faut sortir des slogans et pas dire indépendance, indépendance, mais donner un peu de consistance au projet. Ça veut dire qu'effectivement, le projet que vous portez n'est pas complètement finalisé, n'existe pas réellement.
Il existe, il a été finalisé, il a été proposé par deux fois aux consultations référendaires aux Calédoniens en 2018, en 2020. Aujourd'hui, on peut dire qu'après ce qui s'est passé en 2024, la crise du Covid, la crise en Ukraine, etc., il y a certainement un toilettage qu'il faut faire. On ne peut pas occulter le fait que, après ce qui s'est passé en 2024, je pense au dernier rapport là, qui est publié par la
Commission des droits de l'homme.
La Commission des droits de l'homme, qui...
Un rapport un peu à charge.
À charge, mais cette commission répond directement du Premier ministre, M. Lecornu. Donc aujourd'hui, aller critiquer le travail de cette commission, qui est un organisme indépendant, c'est aussi remettre en question le...
C'est un organisme indépendant, comme vous le dites, il ne dépend pas de M. Lecornu, c'est un organisme indépendant par définition.
Oui, mais qui répond directement à des obligations de la France sur le respect du droit international. Donc à partir du moment où on critique ça, enfin voilà, après il ne faut pas critiquer Trump. Voilà, je pense que c'est... Mon propos, c'est de dire que aujourd'hui, on doit re-questionner le projet de société. On ne peut pas faire l'économie du débat en répondant uniquement par une question qui est la première réponse, qui serait de pourvoir sur la partie économique le plan de relance. Il faut questionner les mécanismes qui ont amené la situation critique du mois de mai. Il y a une question politique, mais il y a aussi tout le lit social dans lequel tout ça s'est nourri aussi de cette détresse, de cette frustration. –
Même si mai 2024 a plutôt aggravé la situation sociale et économique de tout le monde, et particulièrement peut-être des populations kanaks.
Les populations kanaks et océaniennes sont les premières concernées. Si on n'a pas accès aux diplômes, si on n'a pas accès à l'emploi, si on n'a pas accès aux bailleurs sociaux, je veux dire, à un moment donné, les gens ne vont pas souffrir en silence, ils vont témoigner de cette frustration d'une manière ou d'une autre.
– Il n'y a pas eu de rééquilibrage depuis 30 ans, 40 ans en Nouvelle-Calédonie ?
Enfin, c'est le questionnement qu'a porté le mouvement FLNKS aussi à l'intérieur du comité des signataires. Il y a eu une demande d'audit de la décolonisation. Donc cet audit-là aussi, il a été questionné. Aujourd'hui, les faits, ils sont ceux que la commission a révélés. Donc clairement, s'il y a eu un rééquilibrage sur les équipements structurants, on se rend compte aussi que les flux financiers qui ont été déversés en Nouvelle-Calédonie à plusieurs milliards d'euros, si vous allez à Yaté, si vous allez à Belep, si vous allez à Koné, à Parkoné, il y a très peu le bien-être des populations, la paupérisation, elle est réelle aujourd'hui. Hein.
Vous parliez de cette réunion organisée par le président de la République le 16 janvier, qui s'est poursuivie ensuite rue Oudinot, qui a abouti à l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Vous ne regrettez pas de ne pas y être allé finalement ? Est-ce que le fait d'être autour de la table ne vous permet pas quand même justement de faire valoir vos positions et de vous faire entendre ? Pourquoi choisir la chaise vide ?
Je pense que c'est beaucoup se positionner pour... nous, à l'intérieur du mouvement Union Calédonienne, on était partant pour y aller. À partir du moment où la convocation nous convie uniquement à débattre de Bougival, enfin, il faut être sérieux. Je veux dire, si on a cet ordre du jour-là, on a fait état publiquement, on a respecté nos engagements, je le répète encore une fois. Ce qui nous a été dit le 12 juillet, c'était faire le retour aux structures. Si les retours des structures, c'est que cet accord en l'état, il ne nous convient pas, il faut le faire évoluer, ouvrir un second round de discussion. On n'a pas arrêté de dire ça. Je fais le parallèle avec ce qui a été dit à Deva. Deva, on a fait la même chose. On avait un projet de souveraineté partagée qui avait été validé par le FLNKS, l'UNI, Calédonie Ensemble, Éveil Océanien.
Mais il était signé par personne. Il n'y a pas de vrai document de Deva et il n'y a pas eu de signature.
Oui, parce que nos camarades ont refusé de signer. Nous, ce qu'on a dit à ce moment-là, on aurait pu faire valoir une résolution au Congrès en disant, écoutez, la démocratie parle et le consensus s'éteint. Ce n'est pas notre vision du débat démocratique, ce n'est pas ce qui a amené aux accords de stabilité de 88 et 98. C'est ce que je dis aujourd'hui. On n'a pas changé de direction et notre perspective, c'est celle de faire valoir le consensus.
Mais voilà, mais c'est ça qu'on comprend peut-être pas très bien. Vous êtes pour le dialogue, vous êtes pour la recherche du consensus, mais vous ne venez pas parler avec les gens.
Ben, alors, si celui qui invite, il nous invite qu'à parler de Bougival, on peut pas non plus... je veux dire, on est sérieux. Quand on est convié à un ordre du jour qui nous est envoyé avec les maladresses qu'il comporte, invité au 16 juillet pour discuter de Bougival.
Enfin, c'est une erreur administrative.
On parle de discussion sur l'avenir de notre pays. Le projet de société que l'on porte, c'est celui que l'on a défendu dans les deux consultations référendaires. Donc on peut toujours chercher des excuses et nous faire porter le chapeau de l'échec d'une discussion qui n'a pas eu lieu pour nous. Et dont les éclairages qu'on a demandés ont été relayés par ceux qui sont partis là-bas. Je suis désolé pour moi, le retour de ce qui a été le document complémentaire signé le 16 janvier, je me confonds aussi.
Le 19 janvier, il était signé.
Oui, voilà. Mais, enfin, je veux dire, pour moi, il n'apporte en rien un éclairage sur l'identité kanak, sur
Il y a tout un chapitre sur l'identité kanak. C'était un peu l'une des revendications du FLNKS de dire que Bougival ne parlait pas, ne reconnaissait pas l'identité kanak. Là, dans l'accord complémentaire, c'est présent. Ça ne vous suffit pas, c'est pas...
À titre d'exemple, le projet qui a été déposé au Sénat, là, il parle de quoi? Il dit que la loi organique de 99, compétence de la Nouvelle-Calédonie sur les statuts civils particuliers, redevient compétence d'État. Donc, c'est quoi le deal? On n'est pas capable de gérer nos affaires entre nous, les gens de ce pays. Qui est citoyen de droit particulier? Les Mélanésiens, les Kanaks. Donc c'est à nous de gérer nos affaires. On va demander quoi encore à la France? Enfin, je ne sais pas si derrière, il n'y a pas le revenir sur les acquis, les fondamentaux qui ont amené les accords de 88 et de 98. Je suis désolé, nous, on s'y oppose. On s'y oppose, mais la politique de la chaise vide, ce n'est pas une excuse qui est acceptable. Je le comprends pour nos compatriotes. Mais si la convocation, elle ne fait état que de parler de Bougival, à quel titre on siégerait?
Et quand l'accord complémentaire apporte des précisions sur l'exercice du droit à l'autodétermination, ça ne vous convient pas non plus, c'est pas le processus que vous souhaitez?
Nous, ce qu'on a dit, dans 98, il y avait une majorité qualifiée à aller chercher. C'est ce qui a été ouvert en 2014. On n'a jamais réussi à l'obtenir. Dans 98, il y avait un droit de tirage au comité des signataires. Édouard Philippe décide de mettre en œuvre. Donc c'est bien qu'il y a une opportunité qui est donnée à celui qui a pris possession de cette terre en 1853 de prendre ses responsabilités sur la décolonisation. Donc c'est ce qu'il a fait, 2018-2020 et 2021. Là, nous, ce qu'on relève, c'est ça a été dit aussi par ceux qui se sont abstenus au Congrès sur la consultation anticipée, ça a été redit. Moi, je lis les PV, les discours de ceux qui ont été là-bas. Ils ont fait valoir les mêmes options. Aujourd'hui, on nous dit majorité des 5 huitièmes, 36 sur 56. Après, une fois qu'on a, si jamais un jour, par miracle, on obtient cette majorité, l'État décide. Au moment de Bougival, c'était pouvant participer. On a dit, il faut mettre pourra et il faudrait devra. Parce que si on a une majorité qualifiée, c'est mort, c'est nous qui avons le droit de réclamer ce qui nous revient. Là, maintenant, il y a encore un verrou supplémentaire, c'est celui de dire les partenaires examinent la situation créée. Donc ça veut dire il faut aller chercher une majorité qualifiée qu'on n'a jamais réussi à obtenir. L'État peut décider de nous dire oui ou non. Les gars, vous êtes même en majorité qualifiée, c'est niette. Trois, le vote des Calédoniens est sanctionné. Et même après ça, il faut demander la permission pour pouvoir examiner... les possibilités.
C'est ce que vous avez, ce que Lucet a qualifié à un moment de verrou infranchissable pour accéder à la pleine souveraineté, c'est ça?
C'est ce qu'on a dit qui devait être pour nous l'objet du second round de discussion qui n'a pas eu lieu, puisqu'aujourd'hui on discute que de Bougival.
Mais l'État, et vous aussi, vous devez quand même prendre en compte les trois référendums qui ont eu lieu. Vous en parliez, vous faisiez allusion. Il y a bien eu trois fois, la question a bien été posée trois fois aux Calédoniens, ils ont dit trois fois non à la pleine souveraineté. C'est pas un élément que vous voulez prendre en compte dans vos discussions et dans l'avenir de la Calédonie?
Ça a été déjà été le cas en 87. avec le ministre Ponce. Oui. Oui. Est-ce que le FLNKS a participé?
Non. Non. Non, mais là, je parle des trois. On ne va pas refaire toute l'histoire.
Non, mais
sortie de l'accord de Nouméa.
Je fais le parallèle. Pourquoi il y a un référendum? C'est pour l'exercice du droit à l'autodétermination, oui ou non?
Oui, mais c'était avant les accords. C'était une autre période.
Est-ce que c'est ça qui a été dealé en 98? C'est ça qui a été dealé. Il y a trois consultations pour permettre l'exercice du droit à l'autodétermination. Qui exerce ce droit ici? Qui est légitime dépositaire de ce droit ici? Dans le droit international, c'est le peuple colonisé. Le peuple kanak, en 83, à la table ronde de Neuville-les-Roches, il décide quoi? Abolition du fait colonial avec nos partenaires de droite. Et puis,
qui n'ont pas signé cet accord non plus.
Hein. Non, on n'a pas renié cet engagement, mais si le partenaire... Je veux juste apporter cette précision, parce que vous nous dites que les trois consultations se sont tenues et qu'on doit s'y tenir aujourd'hui au résultat. Mais si celui qui est dépositaire du droit, légitime dépositaire, qui le partage, ça ne veut pas dire qu'il a renoncé. On a demandé à décaler à la suite du Covid. Aujourd'hui, on fait valoir ce résultat comme l'option qui est le socle sur lequel les nouvelles discussions ont lieu. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans l'accord de Nouméa. Ce n'est pas ce qui est dit. Les partenaires examinent la situation créée. Nous, on dit, là, s'il y a une proposition qui a été formulée à Deva, elle ne convenait pas à nos camarades, on rediscute. Si maintenant, la proposition de Bougival ne nous convient pas, nous, on demande à rediscuter.
– Mais alors, sous quel format est-ce que vous voulez discuter? Avec l'État uniquement ou avec l'État, les partenaires calédoniens, ou uniquement entre partenaires calédoniens?
Moi, je pense que la réponse, elle est simple. Hein, c'est que celui qui est dépositaire de la souveraineté aujourd'hui, c'est l'État français, c'est l'Empire, légitime. La notion d'État aujourd'hui, c'est la Ve République. Nous, aujourd'hui, on a continué à discuter avec nos autres partenaires et on continuera à discuter avec eux. Mais ce n'est pas moi qui fais les invitations. Enfin, moi, je suis Mouvement Union Calédonienne, c'est le mouvement de libération qui porte. Nous, on discute. C'est ce qui a été dit aussi à Marais ce week-end. Il faut poursuivre la discussion.
Alors, les accords et l'accord complémentaire ont été signés par 5 groupes politiques sur 6, notamment les indépendantistes de l'UNI. Mm-hmm. Où en êtes-vous avec eux? Est-ce que vous discutez directement avec eux? Est-ce que vous avez pu confronter vos points de vue? Est-ce que vous leur avez dit qu'ils avaient eu tort de signer? Ou est-ce que vous ne vous parlez pas du tout?
Nous, je pense que les structures, elles sont souveraines. Hein. Ce n'est pas à moi de dire ici ce qui est bien ou ce qui est mal. Les militants, je pense, de tous les partis politiques, signataires, et même ceux qui n'ont pas signé, nous, UC, on a fait l'analyse. Et pour nous, ça ne nous emmène pas sur une trajectoire d'émancipation. Il y a les instances comme à Bougival l'année dernière, et puis là, comme après Élisée Oudinot, feront valoir les retours auprès des structures qui décideront. Nous, on a fait notre congrès à Marais ce week-end, moi je viens pour parler au nom de l'UC, nous on a dit c'est pas possible l'Élysée Oudinot, et on s'y opposera, je pars la semaine prochaine, pour faire valoir les positions de l'Union calédonienne, le bureau politique du FLNKS s'est réuni, nous on continue sur notre trajectoire, on pousse la discussion, mais on s'opposera au débat, dans le débat parlementaire au Sénat et à l'Assemblée sur la mise en œuvre de ce projet d'accord.
– Voilà, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que votre marge de manœuvre, c'est quoi? C'est d'essayer de convaincre les parlementaires de ne pas voter la réforme constitutionnelle qui doit arriver le 24 février au Sénat, qui ensuite doit être examinée par l'Assemblée nationale. Vous allez essayer d'expliquer aux parlementaires métropolitains qu'ils ne doivent pas la voter.
– Je vais expliquer ce que moi j'ai défendu en commission mixte paritaire avec mon collègue Metzdorf. On était 7 députés, 7 sénateurs là-bas. Moi, je ne vote pas, j'ai juste fait valoir mes arguments, ce qui a été dit. À la commission mixte paritaire, c'était que sur le projet de loi qui a été déposé par le sénateur Caner, PS, au Sénat, qui est arrivé chez nous, c'était un report des provinciales pour permettre la mise en œuvre de l'accord du 12 juillet. Nous, les parlementaires, on a discuté, on a dit quoi? On a dit, c'est pas un accord consensuel, il faut ouvrir un espace de discussion pour que ce soit un accord consensuel. Là, moi, je suis désolé. Il y a encore moins de signatures qu'à Bougival. Donc, puis les prises de position politiques, de toute façon, les uns et les autres font déjà le travail, les relais auprès de leurs parlementaires là-bas, hein, que ce soit ceux qui ont signé et puis ceux qui n'ont pas signé.
Vous pouvez compter sur quel soutien, a priori, à l'Assemblée nationale et au Sénat ? Vous savez déjà, vous avez fait le point, j'imagine.
Je pense qu'on pourra compter sur tout le soutien de tous les démocrates, tous ceux qui veulent l'expression de la légitimité républicaine, parce qu'on est encore en République.
Il y a votre groupe, j'imagine, que vous allez entraîner. Il y a LFI, on imagine.
Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être entraînés.
Voilà. Il y a LFI qui est opposé, évidemment. Le Rassemblement national aussi. Alors, pas pour les mêmes raisons sans doute que les vôtres, mais est opposé aussi. Donc, c'est tous ces groupes-là. Vous allez essayer de convaincre l'EPS, les
LR.
Moi, je
ne pense pas que j'ai besoin de les convaincre. Pour vous parler franchement, oui. Le texte, il parle.
Il parlait franchement, oui.
Oui, enfin, c'est votre devise aussi. je pense que le texte, il est suffisamment explicite pour les uns et pour les autres. Pour nous, c'est clair, ça ne nous emmène pas vers une trajectoire d'émancipation, conformément à ce qui a été dealé depuis 88. Donc, on reste là-dessus. Mais je pense que c'est bien d'avoir le débat, parce que c'est là aussi où finalement, on fait valoir l'angle sous lequel les uns et les autres abordent la question en particulier qui est essentielle pour nous sur l'exercice du droit à l'autodétermination. Donc, c'est ça le fondement de notre revendication sur l'identité kanak, sur un écueil encore supplémentaire, c'est l'hyperprovincialisation. Dans Bougival, on n'avait que la compétence fiscale et relations extérieures pour le gouvernement. Maintenant, c'est toutes les compétences qui peuvent être dévolues aux provinces. On se dit, mais ça y est, c'est fini. On est exactement sur ce qu'on avait. On s'était opposé à Bougival, enfin à Deva. D'abord, sur la partition et un fédéralisme qui ne dit pas son nom.
Les provinces, c'est quand même un acquis direct des accords de Matignon. On a l'impression que
les régions avant aussi.
Oui, mais les provinces, enfin, on les appelle comme on veut. Aujourd'hui, c'est des provinces depuis 88. Est-ce que ce n'est pas l'échelon de base aujourd'hui de la Calédonie ? Est-ce que ce n'est pas ce qui a permis le rééquilibrage, le partage du pouvoir, de permettre aux indépendantistes de diriger deux provinces sur trois ? Est-ce que ce n'est pas un acquis et est-ce que les provinces ne doivent pas justement retrouver toute leur place aujourd'hui ?
Moi, je pense que c'est au gouvernement de retrouver d'abord sa place. Si on délègue toutes les compétences aux provinces, l'unicité de la Nouvelle-Calédonie est remise en question. Moi, je ne me bats pas pour une province, même si je suis de la province Nord. Je me bats pour mon pays. Parce que quand la France a pris possession de cette terre, elle n'a pas dit c'est que le Sud, ou les îles, ou le Nord. Elle a pris l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et l'île des Pins.
Mais depuis 88, il n'y a pas eu de partition de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi il y en aurait une avec les nouvelles dispositions prévues dans les accords aujourd'hui ?
Mais parce que dans cet accord, c'est indiqué que chaque province peut demander des compétences de manière.
Et ce n'est pas bien que chacun puisse gérer sa province comme il l'entend, avec les besoins, en adaptant aux besoins de sa population ?
Je rappelle, moi, je ne me bats pas pour une province, je me bats pour mon peuple. Il habite sur l'ensemble du territoire. Et ce n'est pas parce que je suis des Yengen que je n'ai pas le droit de venir ici au Sud et d'habiter dans le Sud et de payer mes impôts qui sont redistribués par la clé de répartition à l'ensemble de. C'est ça le principe du rééquilibrage qui a été défendu en 88 et 98. Mais c'est pour ça que les provinces, aujourd'hui, bénéficient de ce traitement.
Mais le gouvernement et le Congrès sont maintenus dans les accords. Dans les projets d'accord ou dans les accords de Bougival et d'Oudinot-Élysée.
Oui, mais sans moyens.
Si la réforme constitutionnelle n'est pas adoptée, qu'est-ce qui se passe ?
Il faut demander à l'État. C'est l'État qui met en œuvre ces dispositions, c'est l'État qui fait les invitations aux discussions institutionnelles, c'est l'État qui fixe l'ordre du jour. Moi, je ne peux pas répondre à la place de l'État.
Et si elle est adoptée, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous réagissez ?
On réajustera nos stratégies. Déjà, il faut aller aux discussions pour faire valoir nos arguments au Sénat. Enfin, je ne sais pas quand est-ce que la commission des lois là, met en œuvre. Je ne sais pas, même pas s'ils ont nommé un rapporteur. Mais les options, elles sont d'abord de suivre le chemin qui est celui institutionnel. Et puis après les parlementaires se prononceront. Mais un écueil, toutefois, pour moi aujourd'hui, c'est on avait dit accord consensuel. Maintenant, on se dégage de la responsabilité en disant le Parlement doit décider. Mais ce n'est pas comme ça que les accords précédents, ils se sont traduits politiquement par un accompagnement législatif. Mais ils ont d'abord fait valoir le consensus. Michel Rocard, il a été mandaté par l'Assemblée nationale. Et Lionel Jospin, sur une cohabitation, a été mandaté par l'Assemblée nationale. C'est sur cette base-là que.
Le consensus, c'est pas l'unanimité, évidemment. C'est-à-dire que chacun doit faire un peu des compromis pour trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde.
Oui.
L'Union calédonienne est prête à faire quel compromis ?
L'Union calédonienne a toujours fait des compromis. Je pense que là, pour l'instant, ce n'est pas ici que le débat se fait. C'est dans le cadre des réunions et dans le cadre des ouvertures que nous offre le...
Mais vous êtes prêt à en faire ? Vous seriez prêt à en faire pour
toute
trouver ce consensus auquel vous...
Toute négociation est l'objet de compromis.
Alors vous souhaitez que les provinciales, aient lieu en novembre de 2025, hein, c'était l'une de vos revendications, celle du FLNKS en tout cas, que le calendrier ne soit pas modifié. Elles ont été reportées à juin 2026, maintenant à avant décembre 2026.
Pas pour l'instant, le projet n'est pas passé.
Dans le projet.
C'est une proposition.
C'est une proposition.
Donc il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas la réalité. Ce qui a été dealé avec les parlementaires, accord consensuel pour permettre... le report des provinciales. Aujourd'hui, le report se fera si les arguments portent sur est-ce que c'est un accord consensuel ou pas. Moi, j'ai beaucoup de doutes, sinon je conteste le fait que c'est un accord consensuel.
Et vous souhaitez que les élections provinciales aient lieu quand, alors ? Il va bien falloir à un moment renouveler ce mandat.
Vous l'avez bien dit. Je fais déjà plusieurs années que l'année dernière, c'est moi qui l'ai porté. Et M. Naturel, là-bas au Sénat. Monsieur Rouillet, une partie des élus de la République, ils nous ont dit en commission mixte paritaire, ça n'existe pas dans aucun territoire de la République de reporter trois fois les mandats de ceux qui sont dans les collectivités, régions ou départements. Là, on va reporter encore une quatrième fois. Et c'est pour ça qu'il y a une faiblesse dans le portage politique de cet accord. C'est que pourquoi Matignon et Oudinot étaient solides ? Pourquoi Nouméa a été solide. Mais parce que le mandat qui était celui de ceux qui ont paraffé ces documents était aussi solide. Il y a une assise à l'Assemblée nationale, il y a une assise au Sénat, il y a une assise au RPCR de l'époque, il y avait une assise au FLNKS. Aujourd'hui, pour le FLNKS, les mouvements qui sont à l'intérieur sont toujours sur cette assise-là. Aujourd'hui, je me dis, s'il n'y a pas de mandat renouvelé, à quel titre on irait paraffer et puis se placer au devant des désirs d'une population qui n'a pas exprimé finalement qui n'a pas renouvelé la légitimité de ceux qui ont paraffé ces documents depuis 2019.
Donc selon vous, il devrait y avoir d'abord les provinciales avant de réentamer les discussions pour trouver ce fameux consensus introuvable pour l'instant ?
Moi, je pense que il y a toujours la possibilité de trouver un consensus. Ça a été le cas en 88, ça a été le cas en 98. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui.
Dans le projet, dans l'accord complémentaire Élysée-Oudinot, il y a également un volet économique et social. Est-ce qu'il vous convient ? Est-ce que l'aide de l'État vous paraît suffisante ? Et est-ce que ce n'est pas indispensable, effectivement, qu'il y ait un afflux d'argent pour redynamiser l'économie, relancer, répondre aux problèmes économiques et sociaux de la population ?
Je pense que c'est indispensable que l'État prenne ses responsabilités. Enfin, on est citoyen français, nous on n'a pas demandé. Hein. Donc de là à nous dire que c'est parce qu'il y a un accord institutionnel qu'on signe le chèque, enfin, je suis désolé, hein. Moi c'est les accords de 88 et 98, ils n'ont pas été signés sur la base ni d'un plan de relance, ni d'une stabilité économique, ils ont d'abord été signés pour faire valoir un projet de société. C'est pour ça que je rappelle Neuville-les-Roches, c'est de marcher ensemble, faire société, et puis de choisir finalement notre destinée, dans laquelle on s'émancite et on se donne les moyens. Et c'est là où, aujourd'hui, les propositions qui sont formulées sur la table, la situation de la Nouvelle-Calédonie, les réformes, on ne les a pas faites. Le projet de NC 2025, tout le monde...
Il est oublié, lui.
Il est oublié, mais je veux dire, de fait, les réformes, on ne les a pas assumées. Il faut dire ce qui est. Et que maintenant, on nous dit, c'est ce qu'on a fait valoir au président Mapou, c'est ce qu'on a fait valoir au président Ponga aujourd'hui, de faire des réformes en 2 ans. Enfin, c'est audacieux quand même. Je ne vais pas émettre d'avis dessus, mais je veux dire que le plan de relance, c'est de la responsabilité.
Surtout qu'il n'y a pas de vraie majorité au Congrès et qu'à chaque fois, les réformes se sont heurtées aux élus du Congrès qui en ont repoussé plusieurs quand même, même si elles étaient passées au gouvernement.
D'où la nécessité de faire les élections provinciales.
Vous avez voté la motion de censure contre le projet de budget, contre le gouvernement Lecornu. Pourquoi ? La Calédonie, elle n'a pas besoin impérativement. Enfin, Si le budget de l'État est voté, ça permettra aussi à la Calédonie d'en bénéficier ?
Oui.
Alors pourquoi vous avez voté la censure ?
J'ai voté la censure parce que les propositions qui ont été les nôtres, enfin je parle pour nos groupes et puis l'ensemble du nouveau Front populaire, on ne se reconnaît pas dans le projet de budget qui est porté sur la table. Moi, je suis au sein d'un groupe, je suis aussi, j'ai mis des réserves sur le budget qui nous a été proposé. Quand bien même il y a une partie qui nous concerne, nous, à l'intérieur de notre groupe, ce n'était pas calé. Certains de nos compatriotes, nos collègues du groupe, n'ont pas souscrit à cette motion de censure. Moi, je conteste le droit de venir dire aujourd'hui que parce qu'on a un plan de relance sur la table, on doit se soumettre. Je dis, c'est pas du chantage, c'est de faire valoir la démocratie. Et aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on nous impose, je vais juste parler par exemple de NMC, le financement qui est prévu pour la NMC là. On a 440 millions pour SLN et PRNC. Pour NMC, on dit 40 millions. On finance les filiales mères, et puis, les sociétés mères, et puis pour NMC, on se finance une filiale. Et c'est après qu'il est obligé d'aller chercher auprès de ses actionnaires. Enfin, je veux dire, c'est quoi ça ? C'est pas de la disparité de traitement. J'ai pas besoin de lire le rapport de la Commission des droits de l'homme. Là. C'est juste un traitement pour moi qui clairement indique que l'État a pris position pour quel outil industriel est à préserver et quel autre est à mettre de côté.
– Le temps passe, malheureusement. Un point quand même, un mot sur les prochaines échéances électorales et notamment municipales. Quels sont vos objectifs et est-ce qu'il va y avoir une unité des indépendantistes malgré les divisions entre l'UC et le Palika? Est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver sur des listes d'union dans les différentes communes ?
Là, non, pour l'Union calédonienne, ça fait l'objet de discussions au niveau local et ça répondra aussi des stratégies au niveau local. On va en faire état tout à l'heure à la conférence de presse, mais pour l'instant, la stratégie, c'est déjà d'abord de répondre sur le bilan. Ceux qui ont porté des listes FLNKS font valoir leur bilan. C'est d'abord sur le bilan qu'on défend, on poursuit ou on ne poursuit pas sur l'équipe sortante ou on renouvelle. C'est d'abord la première chose. Et puis après, l'ensemble de tout ce qui s'est passé depuis que ce mandat s'est terminé, c'est aussi mai 2024. Où aujourd'hui les trésoreries des collectivités sont mises à mal sur la question des transports, sur la question des cantines, des CCAS. C'est là où finalement on doit réajuster le tir et ça se fera nécessairement dans le cadre des stratégies au niveau local.
Vous-même, vous partez dans quelques jours là, pour rejoindre Paris et exercer votre mandat de député ?
Oui. Oui, puisque le projet de loi constitutionnelle est déjà dans les tuyaux. Et puis certainement derrière ça aussi, le projet du énième report des élections provinciales.
Et vous estimez, vous nous l'avez dit tout à l'heure, qu'un consensus est possible, il reste à le trouver.
Je pense et je reste persuadé de ça, comme nos aînés l'ont fait. Aujourd'hui, pour moi, il y a encore moins de signatures qu'à Bougival. Donc peut-être que il y a d'autres interprétations, la mienne c'est celle-là.
Emmanuel Thubeau, président de l'Union calédonienne, député de la seconde circonscription. Merci d'accepter votre invitation.
Je vous remercie et puis à tous les auditeurs aussi.